L'histoire de Montréal se construit avec chacune de nos vies. Tout le monde joue un rôle, petit ou grand, dans le passé comme à présent. Les personnes dont nous vous parlons ici ont fait leur part. Ils ont posé les jalons de ce que notre ville est devenue aujourd'hui.
Charles Lemoine et Jacques Lebert, amis et beaux-frères. L'histoire de Montréal est marquée au 17e siècle par la personnalité de deux hommes peu ordinaires, Charles Lemoine et Jacques Lebert. À la fois beaux-frères et associés, ils ont un formidable sens des affaires et deviennent les hommes les plus riches de la ville. Charles Lemoine est originaire de Dieppe, en France. Il arrive en Nouvelle-France en 1641, avant même la fondation de Montréal. Il a 15 ans. Il est reçu comme donné par les jésuites de la mission en Huronie et réside pendant 4 ans à Sainte-Marie au pays des Hurons, près de la baie Georgienne. Il apprend très vite les langues amérindiennes. Il est un truchement, comme on appelle les interprètes à cette époque. Son talent pour les langues va être un atout stratégique pour lui dans le commerce des fourrures, puis plus tard sur le plan diplomatique. En 1646, Charles Lemoine se fixe définitivement à Ville-Marie, qui devient Montréal. Il est un des chefs militaires du petit village. En 1654, après son mariage avec Catherine Thierry, il reçoit de Chaumédé de Maisonneuve une concession de terre de 90 arpents sur la pointe sud-ouest qui prend le nom à ce moment-là de la pointe Saint-Charles. Charles Lemoine est plus tard très impliqué dans le développement de ses seigneuries, dont celle de Longueuil. Il aura 12 fils, dont 10 s'illustrent dans l'histoire de la Nouvelle-France. Il meurt en février 1685 et est inhumé dans la crypte de l'église Notre-Dame de Montréal. Sa sœur, Jeanne Lemoine, épouse Jacques Lebert, originaire de Rouen, qui arrive à Montréal en 1657. Ce dernier est un commerçant hors pair. Il s'associe avec Charles dans une entreprise de commerce des fourrures très lucrative. Ils établissent des postes de traite au-delà de la limite sécuritaire de Montréal, comme celui de Lachine, qu'ils vont faire construire en 1669, ou encore celui de Senneville, sur le lac des Deux-Montagnes. Jacques Lebert devient une des personnalités les plus influentes de son temps. Il est anobli en 1696, il meurt en 1706. Il possède des terres à la Pointe-Saint-Charles, ainsi que son frère François Lebert, qui fait construire la maison que Marguerite Bourgeois lui achète en 1668, aujourd'hui la maison Saint-Gabriel, musée et site historique.
Marguerite Bourgeois et Catherine Crollo, des femmes remarquables. Plusieurs femmes ont joué un rôle majeur dans la fondation de Montréal. Tout d'abord, Jeanne Mance, arrivée avec Paul Chaumédé de Maisonneuve le 17 mai 1642. C'est elle qui fonde l'Hôtel-Dieu, le premier hôpital de Ville-Marie. Puis, en 1653, Marguerite Bourgeois arrive en tant que première institutrice. Elle ouvre son école dans une étable et y accueille tous les enfants des premiers colons et des Amérindiens, garçons ou filles, riches ou pauvres. Marguerite rêve de fonder une communauté religieuse non cloîtrée, ce qui n'existait pas à cette époque. Mais pour elle, c'est la seule façon de mener à bien la mission d'éducation qu'elle se donne. Pour l'aider dans cette vision, elle retourne en France chercher d'autres femmes désireuses de tenter l'aventure. Catherine Crollo revient avec elle en 1659. Elle a 40 ans et elle est célibataire. Robuste et dynamique, elle va se charger de la gestion du quotidien. Son énergie est proverbiale. C'est elle qui supervise le défrichement et les premières cultures de la ferme de la Pointe. C'est elle qui engage les premières familles qui résident sur la ferme et aide les sœurs à cultiver la terre et à élever les animaux. C'est elle aussi qui accueille les filles du roi et les initie à la vie d'ici. Grâce aux revenus générés par la ferme, Marguerite Bourgeois obtient ses lettres patentes du roi Louis XIV en 1670 pour fonder la Congrégation de Notre-Dame. Marguerite Bourgeois et Catherine Crolot vivent toutes les deux très âgées pour cette époque, soit jusqu'à 80 ans. Catherine Crolot décède en 1699 et Marguerite Bourgeois en 1700. Par la suite, au fil des siècles, 86 femmes dirigeront la ferme, aujourd'hui la Maison Saint-Gabriel. On les appelle des métayères, c'est-à-dire qu'elles géraient la ferme non pas pour leur profit, mais pour celui de leur communauté. Elles sont témoins de belles années, avec des récoltes prospères, mais aussi des guerres, des catastrophes et enfin de l'industrialisation. Dans le courant du 19e siècle, les terres se morcellent, sont vendues et la ferme cesse toute activité en 1960. La Maison Saint-Gabriel devient un musée en 1966 et elle est toujours gérée par des femmes. Gabrielle Roy, écrivaine. L'écrivaine Gabrielle Roy publie en 1945 son premier roman. Il s'intitule « Bonheur d'occasion ». C'est un succès presque immédiat. Toute l'intrigue de « Bonheur d'occasion » est située dans les quartiers qui forment aujourd'hui l'arrondissement du Sud-Ouest. En mai 1947, son roman est choisi comme livre du mois par la Guilde littéraire d'Amérique. Et elle reçoit à Paris, en décembre 1947, le prix Fémina, une première pour un écrivain canadien dans un grand prix littéraire français. Magnifiquement écrit, ce roman nous fait littéralement revivre le quotidien des gens de cette époque. Les espoirs, les désespoirs, l'amour, la solidarité familiale et la lutte contre la pauvreté. Gabrielle Roy aimait passionnément le Saint-Laurent et ce coin de Montréal. Aussi, lorsqu'elle revient de France, elle s'installe pendant 2 ans avec son mari dans le quartier du Bronx, à La Salle, à proximité du fleuve.
Histoire de péage. Vous pensez que les routes de Montréal ne sont pas en bon état? Comptez-vous chanceux de ne pas vivre à Montréal au 18e ou au 19e siècle. Les chemins sont souvent très mal entretenus. En effet, chaque propriétaire terrien doit assurer l'entretien de la section de chemin qui passe sur sa terre, qu'il soit ou non utilisateur, selon le système seigneurial des corvées. L'inspecteur des chemins de la ville suggère dès le début du 19e siècle de les transformer en chemins à péage. Il faudra attendre 1840 pour la mise en place d'un nouveau système avec la création de la Montreal Turnpike Trust, plus tard la Commission des chemins à barrières. Elle entretient les voies et en crée de nouvelles. Désormais, les chemins à péage deviennent d'une qualité supérieure aux autres chemins. Ainsi, le chemin du roi, parmi les voies les plus fréquentées, devient l'une des premières routes à péage de l'île. Donc, en 1840, une barrière à péage est élevée du côté nord de la rue Wellington vers Charlevoix. Selon les lois et ordonnances des syndics des chemins à barrière, les péages sont perçus pour aller et venir entre minuit d'un jour et minuit du jour suivant avec le même cheval ou les mêmes chevaux ou la même voiture. Selon les lois et ordonnances des syndics des chemins à barrières, les péages perçus pour aller et venir entre minuit d'un jour et minuit du jour suivant, avec le même cheval ou les mêmes chevaux ou la même voiture, sont fixés selon le type de véhicule, l'attelage, la charge portée et la largeur des roues. Les tarifs des roues étroites sont en effet plus élevés puisque ce sont celles qui endommagent le plus la route. Un tableau des tarifs est affiché à chaque barrière où une maison de péage est habituellement construite pour loger le percepteur. Ce système est aboli en 1922 par le gouvernement provincial quand la responsabilité des routes est transférée au gouvernement du Québec et aux municipalités. Joseph Chapman, brasseur. Sous le régime français, on boit entre autres du vin importé de France et d'Espagne qu'on coupe avec de l'eau. On fait aussi du cidre avec les pommes des pommiers qui sont plantées peu de temps après l'arrivée des premiers colons. Sous le régime britannique, tout va changer, car les Britanniques préfèrent la bière. C'est donc sous l'impulsion des soldats et des marchands qui viennent s'installer à Québec et à Montréal suite à la guerre de 7 ans qu'on assiste à l'éclosion de nombreuses brasseries. La clientèle pour cette boisson fermentée s'accroît de manière spectaculaire suite à l'arrivée de près de 10 000 loyalistes dans la province of Québec. Les brasseurs d'origine française s'adaptent rapidement et bénéficient des innovations technologiques et des savoir-faire anglais. Cet essor se fait sentir rapidement, car dans le recensement des industries du Bas-Canada en 1827, on dénombre l'existence de 14 brasseries à Montréal, dont celle de Joseph Chapman. Il naît en 1772, probablement aux États-Unis. Suite à la Révolution américaine, Joseph Chapman, comme 10 000 autres loyalistes, fait une demande d'immigration au Canada en 1789. La première mention de Chapman à Montréal date de 1797. Au cours de sa vie, Joseph Chapman exerce plusieurs emplois. Marchand-tailleur, propriétaire foncier, fournisseur de matériaux de construction pour le gouvernement et, enfin, brasseur de bière. Il tente également sa chance en politique où il perd contre Louis-Joseph Papineau en mars 1820. Parmi ses nombreuses propriétés immobilières, notons la présence de la maison Nivard de Saint-Dizier, dont il sera le propriétaire de 1820 jusqu'à sa mort le 4 mai 1839. John Smythe Hall, premier maire de Verdun. John Smythe Hall est élu conseiller de la municipalité de la Rivière-Saint-Pierre lors de la première assemblée publique le 8 février 1875 au Pavilion. Une semaine plus tard, le maire est choisi parmi les conseillers comme c'est l'usage à l'époque. C'est ainsi que John Smythe Hall est proclamé maire de la nouvelle municipalité qui inclut également l'île des Sœurs. C'est pendant son mandat en 1876 que la municipalité change de nom pour celui de Verdun. C'est son fils, John S. Hall, qui deviendra un avocat réputé qui rédige le procès-verbal de cette réunion historique. John Smythe Hall occupera ce poste jusqu'en 1882 et il instaurera une politique de contrôle dans plusieurs domaines. Le 13 avril 1875, la vente de boissons alcoolisées est interdite sous peine d'une amende de 50 $ ou d'une peine de prison de 3 mois maximum. C'est ainsi que Verdun devient une ville sèche, un règlement qui n'a été aboli qu'en 2015. Des amendes et des emprisonnements sont également prévus pour les entreprises qui fabriquent des produits nauséabonds et s'installent sur le territoire sans avoir auparavant obtenu la permission de la municipalité. Une ville propre, sobre et bien gérée. Joseph Arsène Richard, fondateur de l'hôpital Christ-Roi. Joseph Arsène Richard, plus connu sous le nom de Monseigneur Richard, naît en 1859 à Saint-Liguori de Montcalm. De descendance acadienne, il est le 4e d'une famille de 11 enfants, dont 4 filles ont choisi de devenir religieuses. Il faut rappeler que dans les grandes familles de cette époque, il n'est pas rare de voir plusieurs enfants qui deviennent prêtres, missionnaires ou religieuses. Il y avait une foi intense et des valeurs reliées à la religion catholique qu'on peut avoir du mal à imaginer aujourd'hui. Il fait ses études au Collège L'Assomption et par la suite au collège de Joliette, où il obtient un baccalauréat S. art. Il est ordonné prêtre le 17 mars 1889. Il est d'abord vicaire à Saint-Barthélemy, puis à Saint-Paul-l'Ermite en 1891 et à Saint-Enfant-Jésus en 1897, avant d'accepter en 1899 de devenir le curé de la paroisse Notre-Dame des Sept Douleurs à Verdun, qui est à cette époque une petite ville de 2000 habitants. Il a 40 ans, de l'énergie à revendre et une vision de ce que la ville a besoin en termes d'éducation et de soins de santé. Il faut dire que lorsqu'il prendra sa retraite, quelques 30 ans plus tard, Verdun comptera plus de 60 000 habitants. Monseigneur Richard s'est impliqué dans plusieurs projets, dont la fondation de l'hôpital Christ-Roi, aujourd'hui l'hôpital de Verdun. Monseigneur Richard meurt le 17 juin 1945 à Verdun, à l'âge vénérable de 86 ans.
Les ouvrières de l'usine de munitions de Verdun, dites les Bomb Girls. Lorsque la Première et la Deuxième Guerre mondiale éclatent, de nombreux hommes doivent quitter leur emploi et s'enrôler dans l'armée. Cela occasionne une pénurie de main-d'œuvre pour les usines. Les employeurs vont ainsi engager des milliers de femmes pour répondre aux besoins de la population. Celles qui produisent du matériel de guerre sont appelées les « Bomb Girls ». Ces femmes vont travailler sans relâche pour participer à l'effort de guerre, mais aussi pour subvenir aux besoins de leur famille. À Verdun, pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'usine de munitions emploie 6805 travailleurs, majoritairement des femmes.
George Buzz Burling, aviateur et héros de guerre. Certains Verdunois deviendront, lors de la Seconde Guerre mondiale, des héros nationaux. C'est le cas de l'officier pilote George F. Burling. Passionné par l'aviation, Burling réussit à s'enrôler dans la Royal Air Force en 1940. Lors d'une campagne militaire à Malte, le pilote réussit à abattre 27 avions, dont 2 en 10 secondes. Lorsque Burling se blesse en octobre 1942, l'armée le remercie en lui accordant une promotion et en le nommant chevalier de Malte. Rappelé au pays en 1942, le gouvernement fédéral l'utilise à des fins de propagande de guerre. Le 10 novembre de cette année-là, Burling est de retour à Verdun et la municipalité lui organise une grande cérémonie à l'auditorium. Plus de 6300 Verdunois assistent à cette fête qui sera diffusée en direct à la radio partout au Canada. Il retourne au front en 1943. Avec 31 victoires aériennes homologuées, il est considéré comme l'un des meilleurs pilotes de la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, Burling ne parvient pas à se réadapter à la vie civile. Toujours à la recherche d'aventures, il s'engage dans l'armée de l'air du nouvel État d'Israël, alors en guerre pour son indépendance contre les pays arabes voisins. Le 20 mai 1948, il s'écrase au décollage de Rome en Italie, à bord d'un vieil avion racheté au surplus américain, rempli d'armes et d'explosifs pour Israël. Il avait 26 ans. Le hockey et Maurice Richard. D'où vient le hockey? Son origine suscite encore la controverse. Plusieurs pays revendiquent la paternité de ce sport. Par contre, les historiens s'entendent pour dire que la première vraie partie de hockey s'est jouée à Montréal. C'est le soir du 3 mars 1875, sur la patinoire Victoria de Montréal, que deux équipes de 9 joueurs s'affrontent pour la première fois à l'intérieur, en public. Cette partie sera la première partie de hockey codifiée de l'histoire du sport. Le hockey devient rapidement populaire auprès de la population québécoise et canadienne. Un système de clubs et de tournois se développe et on voit apparaître plusieurs équipes au Canada et aux États-Unis. À Montréal, plusieurs équipes sont créées, dont les Canadiens de Montréal en 1909. Ces équipes vont remporter de nombreuses Coupes Stanley. Surnommé le Rocket, Joseph-Henri Maurice Richard est un des anciens joueurs de hockey les plus connus au Canada et aux États-Unis. C'est à l'âge de 17 ans qu'il entre dans le monde du hockey junior et joue pour l'équipe des Maple Leafs de Verdun durant deux saisons, 1938-1939 et 1939-1940. Lors de la saison 1939-1940, il ne joue que 10 matchs en saison régulière et 11 en séries éliminatoires. Au cours de ses 21 parties, Maurice Richard compte 17 buts et 13 aides pour un total de 30 points. L'année suivante, il signe un contrat avec l'équipe école du Canadien de Montréal, le Canadien senior. Durant sa carrière, Maurice Richard remporte 8 Coupes Stanley et de nombreux honneurs.
Étienne Campeau et Catherine Polo, premiers habitants de Verdun. Des 8 colons surnommés les Argoulets, peu d'entre eux restent sur le territoire de Verdun. La plupart émigrent vers les villages voisins, dont la Chine. Parmi ceux qui restent, l'un d'eux ne quittera jamais la côte des Argoulets, Étienne Campeau. Il serait né en 1635 à Brive-la-Gaillarde, dans le Limousin, aujourd'hui département de Corrèze, dans le sud de la France. Il est le fils de Léonard Campeau et de Françoise Mauger. Il arrive en Nouvelle-France au début des années 1660. C'est en 1663 que l'on voit apparaître son nom dans les archives de Ville-Marie. Il s'inscrit alors avec plusieurs montréalistes, les premiers habitants de Montréal, dans la milice de la Sainte-Famille. En 1663, il devient engagé avec François Lebert pour défricher la terre appartenant à la famille Lemoine, qui sera plus tard cédée à Marguerite Bourgeois. Cette terre correspond aujourd'hui au site de la Maison Saint-Gabriel. C'est probablement à cet endroit qu'il rencontre Catherine Polo, sa future épouse. Catherine Polo est une des 36 premières filles du roi à débarquer à Montréal. Le mariage a lieu le 13 novembre 1663. Ensemble, ils ont 15 enfants. En 1665, à la demande de Maisonneuve, le couple s'installe à la côte des Argoulets pour créer un avant-poste défensif. En retour, le couple se voit concéder une terre de 2 arpents le long du fleuve par 15 arpents de profondeur. Ils figurent au nombre des premiers habitants de Verdun. Étienne Campeau meurt en 1692. Un de leurs descendants s'installera aux États-Unis. Il est l'ancêtre de Hillary Clinton.
Traverser le fleuve sans pont. Pas facile à l'époque. En hiver, on arrive parfois à avoir par endroit un pont de glace, mais en été, il faut des traversiers ou des traverses, comme on dit à ce moment-là. Et bien sûr, ce n'est pas gratuit. La traversée a lieu entre Verdun et La Prairie. Quels sont les tarifs, selon vous? En 1879, le permis d'exploitation du traversier d'Henri Pigeon comporte le prix des passages. 40 cents pour une voiture simple, 60 cents pour un aller-retour, 15 cents pour une personne à pied et 25 cents pour un aller-retour. Le transport d'une bête à cornes ou d'un bovidé adulte est fixé à 20 cents par traversée. Celui d'un mouton, d'un veau ou d'un cochon à 10 cents. En tout cas, les traverses donnent du travail à bien des gens qui développent un savoir-faire remarquable dans la navigation sur le fleuve, malgré les rapides. C'est le cas du capitaine McLean, propriétaire du vapeur Saint-Louis. Ce marin réputé a travaillé pendant 26 ans à la Compagnie Richelieu en Ontario sur le navire La Prairie avant de démissionner en 1908 pour acheter un bateau à vapeur, le Saint-Louis, avec lequel il va faire la navette quotidienne entre Verdun et la Prairie. Son bateau fait 4 voyages chaque jour de la semaine et 6 voyages le dimanche. Dr. James Douglas, fondateur de l'Institut Douglas. Le Dr. James Douglas père joue un rôle important dans les premières années de la mise en place de l'hôpital qu'on appelait à l'époque le Protestant Hospital for the Insane. Il était un fervent défenseur de l'idée selon laquelle les personnes atteintes de maladies mentales ont besoin d'un environnement sain avec un programme complet de travail et de loisirs. Cette philosophie a profondément influencé l'approche de l'hôpital et les soins prodigués aux patients. Le Dr. James Douglas a offert de généreux dons à l'hôpital, permettant sa survie lors de périodes de difficultés financières. Dès ses débuts, l'hôpital a dû s'appuyer sur la communauté pour assurer son développement. N'étant pas dirigé par une organisation religieuse, comme c'était le cas de la plupart des hôpitaux francophones, il fallait compter davantage sur la générosité du public et sur le bénévolat. Cette culture d'ouverture et de partenariat avec la communauté a permis d'assurer le succès de différentes initiatives de réinsertion sociale. Pour James Douglas et ses collaborateurs, l'occupation des patients, orientée de façon appropriée, est l'un des principaux facteurs curatifs dans le traitement de la plupart des formes de troubles mentaux. Les patients étaient donc invités à travailler à l'hôpital. Déjà en 1895, 65% des patients y travaillent dans une vaste gamme d'emplois, allant du moissonnage à la peinture, en passant par la réparation de vêtements. John Crawford, financier et amateur de chasse à courre. Né en 1814 en Irlande, John Crawford immigre au Canada en 1829 à l'âge de 15 ans. John Crawford devient un important et très riche homme d'affaires montréalais. Il a été vice-président de la Banque Molson, président de la City Passenger Railway Company, directeur de la Montreal Gas Company et directeur du Montreal Turnpike Trust. Le 28 septembre 1837, il se marie en premières noces avec Mary Elizabeth Molson, la nièce du célèbre John Molson. Ils auront 3 enfants. En 1864, John Crawford épouse en secondes noces Margaret Davidson Elgood, avec laquelle il aura 4 enfants. En 1842, il fait l'acquisition du fief de Verdun. Il s'y construit une maison de style victorien, la Verdun House, et utilise la maison Nivard de Saint-Dizier comme camp de chasse. Entre 1868 et 1888, John Crawford est plusieurs fois à la tête du Montreal Hunting Club. Il reçoit régulièrement les membres de cette association sur le fief de Verdun, où il pratique la chasse à courre. John Crawford préside également la première assemblée publique de la municipalité de la Rivière-Saint-Pierre. Il devient conseiller municipal de Verdun de 1894 à 1901. Il meurt en 1903 à près de 90 ans. René Robert Cavelier de La Salle, explorateur dans l'âme. Grand explorateur de l'Amérique du Nord et reconnu pour la découverte des bouches du Mississippi, René Robert Cavelier de La Salle est né à Rouen, en France, en 1643. Il entre dans l'ordre des Jésuites pour faire plaisir à son père, mais il a surtout soif d'aventure. Il arrive à Montréal en 1667. Fils d'une famille fortunée, il obtient un fief du seigneur de l'île de Montréal, le séminaire de Saint-Sulpice. Les limites du fief correspondent grosso modo au territoire actuel de l'arrondissement de La Salle, que Cavelier de La Salle désigne comme la côte Saint-Sulpice. Le caractère impétueux du personnage et son désir de découvrir de nouveaux territoires l'incitent, en 1669, à vendre son fief au séminaire de Saint-Sulpice et son domaine à Jean Milot, un taillandier de la rivière Saint-Pierre, et aux marchands Charles Lemoine et Jacques Lebert. Cavelier de La Salle commence alors ses voyages qui l'amèneront à explorer une partie du cours de l'Ohio, des Grands Lacs et de leur région. Il atteint le sud du lac Michigan en 1680 et descend le Mississippi en 1682 jusqu'au golfe du Mexique. Il prend alors possession de la Louisiane au nom de la France. Il part pour une troisième expédition en 1684, cette fois en passant directement par le golfe du Mexique, mais cette expédition connaîtra une fin tragique. La Salle sera assassinée par ses hommes et ceux-ci seront ensuite tués par les Amérindiens de cette région. Les frères Penniston, une laiterie réputée. En 1889, Francis Henry Penniston et ses frères Samuel, Albert Edward et Charles Wilkes acquièrent une terre de 108 arpents située face au rapide dans le secteur est de la municipalité de paroisse de Lachine, près des limites de Verdun. Ils font ériger une maison familiale sur le chemin de Lachine, et cette maison est toujours là aujourd'hui. De 1893 à 1933, les quatre frères exploitent une ferme d'élevage comptant 68 vaches laitières, 27 chevaux de course et une laiterie, la Penniston Brothers. Elle dessert les villes avoisinantes, notamment Westmount. En 1893, l'un des frères, Samuel, décède et en 1901, Albert, mécontent du déroulement des affaires, vend ses parts et va s'établir au Manitoba. Pourtant, la laiterie fonctionne bien. En 1931, l'entreprise possède un capital estimé entre 50 000 et 75 000 $, ce qui est énorme à cette époque.
L'espérance de vie en 1900 à Montréal. En 1900, l'espérance de vie moyenne d'un homme est de 47 ans et celle d'une femme de 50 ans. Mais ces chiffres tiennent compte de la mortalité infantile qui était très élevée. En fait, 44 % des femmes et 38 % des hommes atteignent l'âge de 65 ans. Entre 1897 et 1911 à Montréal, un bébé sur trois décédait avant l'âge de 1 an. Une grande part de la mortalité était due aux maladies du système digestif, notamment l'entérite et la diarrhée, qui touchaient en particulier les bébés âgés d'un à six mois dans les familles pauvres de Montréal. L'eau et le lait constituaient les principales sources de maladies. Il faut dire que la production de lait à cette époque laissait vraiment à désirer. Une vache touchée par la tuberculose pouvait infecter tous ceux qui buvaient son lait. Heureusement, l'entrée progressive de la pasteurisation du lait à Montréal et de la filtration de l'eau par la ville de Montréal vont fortement faire diminuer l'incidence de mortalité infantile. En 1926, quand la loi sur la pasteurisation du lait est promulguée, ce taux est encore cependant de 14 %, soit presque le double en comparaison des villes de Toronto ou de New York. Alice Lussier, une femme d'action. Née le 26 mars 1926, Alice Lussier restera toute sa vie une ardente bénévole au sein du quartier dit le Bronx, situé à proximité des rapides de Lachine. Rédactrice d'une chronique dans l'hebdomadaire Le Messager La Salle pendant plusieurs années, Alice Lussier est cofondatrice du comité de citoyens du village des Rapides, un organisme à but non lucratif voué à la préservation et à la relance du quartier. Le quartier Bronx ayant un toponyme anglophone, on cherche à le renommer. La ville de La Salle accepte la proposition du comité de citoyens en 1984 et le village des Rapides obtient ses lettres de noblesse. Alice Lussier fait également partie des citoyens qui veulent la préservation de l'école primaire Notre-Dame du Sacré-Cœur, qui devient en 1986 le centre culturel et communautaire Henri Lemieux. Alice Lussier est témoin de la transformation du quartier et de l'aménagement des berges près des Rapides de la Chine. Elle défendra, jusqu'à la fin de sa vie, la préservation du patrimoine bâti du quartier, notamment la maison Penniston.
Sir Herbert Samuel Holt, fondateur de la Montreal Light, Heat and Power. Herbert Samuel Holt naît à Dublin, en Irlande, en 1856 et y fait des études en génie civil. Arrivé au Canada en 1875, il supervise l'installation de voies ferrées de 1883 à 1889. C'est un excellent ingénieur, mais surtout un homme d'affaires remarquable. En 1901, il fonde la Montreal Light, Heat and Power, née de la fusion de Royal Electric et de Montreal Gas Company. C'est juste un début. Deux ans plus tard, il constate que la compagnie Lachine Rapids Hydraulic and Land possède un contrat d'exclusivité de 25 ans avec l'importante compagnie Shawinigan Water and Power. Il la veut. Pour acquérir cette firme, il lui faut des associés. Il obtient la collaboration d'hommes d'affaires chevronnés tels que Louis-Joseph Forget et James Ross, qui sont intéressés par l'électrification des réseaux de tramway. Ils acquièrent la Lachine Rapids Hydraulic and Land Company, ce qui leur assure le monopole de la distribution de l'électricité sur l'île de Montréal. Herbert Samuel Holt siège à plusieurs conseils d'administration d'entreprises à Montréal, notamment à la Banque Royale du Canada, qu'il présidera de 1908 à 1934. Noël Pascal Persillier, dit Lachapelle, père, né en 1781, est tanneur et homme d'affaires. Il obtient des sulpiciens dans les années 1820, des baux d'exploitation pour les moulins de Lachine et du Gros-Sault. Mais lui, ce qu'il aime, c'est de construire des ponts. Des ponts à péage, bien sûr. Il fait bâtir le pont Lachapelle à Cartierville en 1834. Il fait aussi construire un pont à l'emplacement où on trouve aujourd'hui le pont Papineau-Labelle. Son fils, Pascal Persillier, dit Lachapelle, fait ses études en notariat au Collège de Montréal de 1816 à 1820. Il épouse Émilie Leduc, dit Saint-Omer, en 1826. Et la même année, il répond à l'appel de son père pour devenir le principal meunier et le gestionnaire des moulins à eau de Lachine, qui furent longtemps les plus lucratifs sur l'île de Montréal. Un événement malheureux survient le 14 octobre 1828. Le feu se déclare à 2h30 du matin à l'intérieur du moulin à fouler pour se propager rapidement à la manufacture de clous et au moulin à farine. La famille Lachapelle se retrousse les manches et reconstruit l'ensemble du complexe meunier de Lachine. Mais les belles années ne durent qu'un temps. Le séminaire de Montréal, propriétaire des moulins, annule leur entente en 1837 à cause de la grande sympathie de Lachapelle père à l'endroit des patriotes et de leur rébellion. Les sulpiciens veulent éviter tout conflit avec l'autorité britannique qui leur laisse les privilèges liés à leur seigneurie. Les moulins à eau sont donc confiés aux frères William James et Robert Knox et les terres adjacentes sont vendues au cours des années subséquentes. En 1869, les Knox revendent l'ensemble de la propriété à Hugh Fraser, mais ce dernier n'exploite même plus les moulins à eau. Ils sont tombés en désuétude depuis l'avènement des moulins industriels installés aux abords du canal de la Chine. Au cours de ce parcours, On vous parle souvent de moulins à vent ou à eau, de meunier et de farine, mais il ne faut pas oublier que le pain reste la base de l'alimentation à cette époque. William Watson Ogilvy, le bourgeois éleveur de vaches laitières. William Watson Ogilvy est un Montréalais d'ascendance écossaise, né en 1835 dans le quartier de la Côte-Saint-Michel à Montréal. Il épouse Ellen Johnston en 1871, elle aussi d'origine écossaise. Durant sa jeunesse, son oncle, William Watson Ogilvy, lui apprend le métier d'inspecteur de la farine. Un naturel, puisque son père et son oncle sont meuniers. Alexander Walker, le frère aîné de William Watson Ogilvy, reprend la direction de la meunerie familiale, la développe et fonde la A.W. Ogilvy & Company. Son frère John se joint à lui, puis enfin William Watson, en 1860. En affaires, ils forment un trio redoutable et l'entreprise deviendra une très grande compagnie, la Ogilvy Milling Company, dont le champ d'activité couvre tout le Canada, où les Ogilvy ont développé un quasi-monopole dans l'achat et le transport du blé. Mais William Watson a un rêve, celui d'être également un gentleman farmer. En 1892, il achète la ferme Somerville face aux rapides de la Chine, une terre de 180 acres dans le Bas-Lachine, aujourd'hui l'arrondissement de La Salle. Il confie à l'architecte Alexander Cowper Hutchison la construction d'une villa de style Queen Anne, connue sous le nom de Manoir Ogilvy. Sur cette terre, il élève des vaches laitières Ayrshire, des vaches de grande renommée. William Watson Ogilvy fait construire sur sa terre face aux rapides de la Chine des bâtiments de ferme, des étables et des granges. En 1895, il obtient la médaille d'argent de la Société d'agriculture Jacques Cartier pour la ferme la mieux entretenue du comté. Il affectionne en particulier ses vaches de type Ayrshire. À son décès, en 1900, le nom de chacune d'entre elles est soigneusement consigné dans l'inventaire de ses biens. Par exemple, la bête de race Margaret of Lesnessock, âgée de 4 ans, vaut 60 $. Pensy of Carston, du même âge, 40 $. Et la jeune vache, Glenora Lady, 1 an, 30 $. Ces chevaux n'ont pas droit aux mêmes égards. Ils ont juste une évaluation globale, sans distinction particulière. Frédéric Ligori Béic, banquier et sénateur. Fils de Louis Béic et d'Élisabeth Lhomme, dit Artois, Frédéric Ligori Béic naît en 1845 à Saint-Mathias-de-Rouville. Après des études en droit à l'Université Laval, il est admis au barreau en 1868. Il devient le procureur d'Honoré Mercier à la commission d'enquête sur le chemin de fer de la Baie des Chaleurs. En 1875, il épouse Caroline Angélique Dessaules, fille unique de Louis-Antoine Dessaules, seigneur de Saint-Hyacinthe et neveu de Louis-Joseph Papineau. Frédéric Ligori Béic fera fortune dans les banques. En 1874, il cofonde la Banque d'Hochelaga, qui deviendra la Banque canadienne nationale, aujourd'hui la Banque nationale. Il en sera le président de 1928 jusqu'à sa mort en 1933. En lien avec des intérêts financiers canadiens, il est également le fondateur du Trust général du Canada en 1909. Il est nommé sénateur en 1902 par le premier ministre du Canada, Wilfrid Laurier, qui lui confie l'année suivante la rédaction de la loi sur les banques canadiennes. En 1909, il achète les fermes Orchard et Doran de la municipalité de paroisse de Lachine, aujourd'hui La Salle, située à proximité de l'entrée de l'aqueduc de Montréal. Ces terres deviennent le domaine Béic, d'une superficie équivalente à la ville de Hampstead à Montréal, soit 180 hectares. C'est seulement au début des années 1960 qu'un ensemble résidentiel y sera construit. Louis-Auguste Châtel, maire de La Salle, secrétaire de la Corporation du pont du lac Saint-Louis. Né en 1871 à Saint-Isidore de Prescott, en Ontario, Louis-Auguste est le fils d'Olivier Châtel et de Philomène Kenville. Il épouse Exilda Lalonde en octobre 1896. Puis, en juillet 1923, il se marie avec Marie-Anna Aubry, une enseignante à Longue-Pointe, un quartier de l'est de la ville. Il acquiert un chalet d'été à La Salle en 1921 et devient résident 3 ans plus tard. Élu maire de La Salle en 1925 pour une durée de 2 ans, son mandat sera renouvelé jusqu'en 1935. Il devient un des premiers marguilliers de la nouvelle paroisse Notre-Dame du Sacré-Cœur, érigée en 1927. Le marguillier est celui qui administre les biens matériels de la paroisse. Chaque paroisse a un conseil de fabrique qui comprend 6 marguilliers, le prêtre et une coordonnatrice. Ils sont bénévoles, bien entendu. En 1928, le gouvernement du Québec lance l'idée de la construction d'un pont reliant l'île de Montréal à la rive sud. Pour ce faire, Louis-Auguste Châtel crée la Corporation du pont du lac Saint-Louis pour superviser sa construction à la hauteur de Kanawagé. Il agit à titre de secrétaire du conseil d'administration de l'organisme. Au cours de la construction du pont Honoré-Mercier de 1932 à 1934, les résidents lui reprochent la faible proportion des travailleurs lassallois sur le chantier. Il avait déclaré publiquement que les travaux sur le pont étant extrêmement dangereux, il serait préférable pour les ouvriers locaux de ne pas faire partie de l'équipe du chantier. Les électeurs n'avaient vraiment pas apprécié son commentaire en pleine crise économique. Pas surprenant qu'en 1935, ils élisent son adversaire, le notaire Armand Brosseau. Napoléon Alfred Damour, le chef de gare. Napoléon Alfred Damour naît à Salaberry de Valleyfield en 1884. Il est le fils de Napoléon-Édouard Damour et d'Henriette Sauvé. Il commence sa carrière en tant qu'opérateur pour la Compagnie de chemin de fer du Grand Tronc à Hawkesbury en 1903. Napoléon Alfred Damour poursuit son travail à Allendale et North Bay avant de devenir chef de gare du Canadien Pacifique à Webwood jusqu'en 1909. Il épouse Marie-Laurette Boudreau à Algoma en Ontario le 25 juillet 1910. Et après avoir occupé le même poste dans différentes villes de l'Ontario et du Québec, il se fixe à La Salle, à la gare Highlands, de 1916 à 1947. Il devient connu et fait même un bref passage en politique comme conseiller municipal de 1921 à 1923 sous la gouverne du maire Anatole Carignan. Mais il ne semble pas séduit par la politique municipale et ne se représente pas. En fait, à cette époque, sa tâche de chef de gare l'occupe amplement, car, en plus de vendre des billets aux passagers, de rédiger des documents liés au transport du fret, de manier le télégraphe, de veiller à la réception ou à la transmission du courrier transporté par le train, il garde en bon état la station du Highlands, sans oublier son chauffage. Au cours des années 1940, il dirige une équipe de télégraphistes et de commis. Il a la responsabilité des voies de la gare de triage. Plusieurs entreprises lassalloises utilisent le train pour la livraison ou la réception de marchandises. Samuel Bronfman, l'un des fondateurs de Seagram, la fameuse distillerie de whisky, vient parfois le voir pour assurer la sécurité du transport de la production de l'usine. Il fallait prévenir le vol de bouteilles de whisky. ce qui n'empêche pas les deux hommes de s'échanger quelques plaisanteries durant leur rencontre. Cecil Platt Newman naît à la Chine en 1866. Il est le fils de James W. Newman et de Marie-Joséphine Platt. Le 6 mars 1900, il épouse à l'église anglicane St. Stephen's Elizabeth Caroline Chaput. Résident du boulevard Lassalle, ce propriétaire foncier possède un verger entre l'avenue Orchard et la 90e avenue. Il est conseiller municipal de la paroisse de la Chine en 1911 et 1912, année de la création de la ville de Lassalle sous le maire Henri Bergevin. Cecil Platt Newman est le premier maire élu de la nouvelle ville. Son mandat de 2 ans est marqué par l'acquisition de la maison Browning, qui devient en 1914 l'hôtel de ville de Lassalle. Il perd l'élection suivante par 2 voix contre Cyril-Charles Lapierre, mais revient à la politique de 1917 à 1923. Il meurt en 1952 dans une ville en pleine croissance résidentielle, industrielle et démographique.
Les Delorimier et les Bélanger, deux familles de notables. Située au 9603 boulevard Lassalle, la maison Delorimier-Bélanger aurait été construite entre les années 1737 et 1784. Elle est caractéristique de l'architecture de la maison rurale québécoise en maçonnerie du 18e siècle. Elle a été habitée par Claude-Nicolas Guillaume Delorimier, dit Chevalier Delorimier, officier de milice, marchand et homme politique, et arrière-petit-fils de Marguerite Chorel. En 1837, François Bélanger l'acquiert et ses descendants en restent propriétaires pendant 6 générations, notamment les conseillers municipaux Joseph Bélanger et son fils, François-Xavier Bélanger, présent au conseil de 1915 à 1933, une famille au cœur de la naissance de la vie lassalloise. Quelle est la vie d'une femme de notable à cette époque? Laissez-moi vous parler de Marie-Alphonsine Bernadette Degault-Deslauriers. Marie-Alphonsine Bernadette est dans la jeune vingtaine lorsqu'elle se marie avec François-Xavier Bélanger, le 28 novembre 1907, à la paroisse des Saints-Anges de la Chine. Elle habitera toute sa vie cette maison, devenue la plus ancienne maison de Lassalle, encore appelée, lors de son mariage, le Bas la Chine. Son principal travail est d'entretenir la maison et son ménage, et bien sûr d'élever ses enfants. Avec son mari, elle veillera aux grands travaux sur la maison lors de l'élargissement du boulevard Lassalle au début des années 1930 et donne sans doute son avis sur les changements entrepris. Pour le reste, Marie-Alphonsine Bernadette, comme la majorité des femmes à cette époque, est la reine de son foyer. Et c'est son mari qui a de l'influence sur sa communauté.
Jean Milot, taillandier et pionnier. Fils de Philibert Milot et de Catherine Sonnonner, Jean Milot est baptisé à Vermenton en Bourgogne en 1624. Il arrive en Nouvelle-France en 1653 avec la Grande Recrue de Montréal. Il s'agit d'une centaine d'hommes engagés comme soldats pour protéger la jeune colonie. Il épouse Marie-Marthe Pinson le 7 janvier 1654, puis en secondes noces, il épousera une fille du roi accueillie par la Maison Saint-Gabriel, Mathurine Thibault, le 26 novembre 1663, à Montréal. Il exerce le métier de taillandier, c'est-à-dire qu'il est un spécialiste de la fabrication d'outils pour couper ou tailler. Mais il a bien d'autres talents. En 1653, il s'établit aux abords de la rivière Saint-Pierre. Durant un bref moment, en 1661, il est même fait prisonnier par les Iroquois. Le 3 février 1669, il achète le domaine de 420 arpents de René Robert Cavelier de La Salle, qui deviendra le site du Fort Rémy et le cœur du village de la Chine. Il achète également de Nicolas Moisan, dit « le Parisien », une terre de 60 arpents adjacente au domaine. La famille Milot conserve ce patrimoine pendant près de 150 ans. Jean Milot obtient, avec l'achat du domaine, le droit de bâtir un moulin à vent, ce qu'il fait faire en 1671, puis en 1672, il fait bâtir une forge et un bâtiment qui abrite également un four pour cuire le pain que l'on désigne sous le nom de Manoir Milot. Milot ne conserve le droit de moudre le blé que peu de temps. En 1673, il revend son moulin aux Sulpiciens, seigneurs de l'île de Montréal. Le moulin à vent sera dorénavant géré, comme il se doit, par le seigneur de Montréal, qui engage des meuniers pour faire tourner les meules et moudre le blé des censitaires. William Fleming, meunier. William Fleming, né vers 1786 en Écosse, où vraisemblablement, il épouse Janet Miller dans une église presbytérienne avant d'immigrer au Canada. En 1814, William Fleming s'installe dans la paroisse de Lachine face au lac Saint-Louis, lieu idéal pour construire un moulin à vent. Il achète une partie de la terre de William Reed et y fait construire l'année suivante un premier moulin à vent en bois pour nettoyer l'orge et le riz. En 1816, il installe de nouvelles meules pour moudre le blé et le convertir en farine. À compter du moment où William Fleming utilise son moulin pour moudre le blé afin de le convertir en farine, Jean-Henri Auguste Roux, le supérieur des messieurs de Saint-Sulpice, alors seigneur de l'île de Montréal, déclenche une bataille juridique contre le meunier. Le seigneur de l'île de Montréal est le seul détenteur du droit de banalité qui lui permet d'exploiter les moulins pour produire de la farine. Cette bataille va durer plus de 10 ans et remettra en question le régime seigneurial et ses droits acquis, tels la production de la farine. Le procès s'enclenche le 28 juin 1816 à la cour du banc du roi. Les avocats du séminaire de Saint-Sulpice de Montréal réclament la démolition du moulin et une compensation de 1000 livres pour la perte des droits de mouture. En 1819, le Conseil législatif du Bas-Canada donne raison à Fleming. En 1822, la Cour du banc du roi donne raison aux Sulpiciens. En 1825, en appel, la Cour décrète le statu quo. Les Sulpiciens abandonnent les procédures. Fleming a gagné. En 1827, il fait construire un nouveau moulin. Il signe une entente avec le maçon William Morrison pour construire un bâtiment en pierre de 5 étages avec des fondations, mais sans jamais indiquer clairement, cependant, que c'est un moulin à vent. C'est l'aîné John Fleming qui prend la relève de William Fleming à sa mort en 1860. Il demeure meunier jusque vers la fin des années 1880.
Marguerite Chorel, la pionnière. Marguerite Chorel de Saint-Romain est la fille du sieur François Chorel de Saint-Romain dit d'Orvilliers et de Marianne Aubuchon. On ne connaît ni l'endroit ni la date exacte de sa naissance, mais on sait qu'elle a 25 ans en 1695 lorsqu'elle épouse un officier français du nom de Guillaume de Lorimier. Guillaume sera le père de ses 4 enfants et l'ancêtre de tous les Delorimiers d'Amérique. Ses parents lui offrent en dot une maison de pierre, ainsi que les terres environnantes à la Chine. La maison avait été construite pour servir de poste de traite et, un temps, un certain François Guimau dit Lalande y avait même tenu auberge. Depuis la guerre, la maison est abandonnée. Quand Marguerite y emménage, autant dire que le confort n'est pas au rendez-vous. Un sol en terre battue, une échelle en guise d'escalier et beaucoup de saleté. elle fait aussitôt poser un solide plancher, sans prévoir que les archéologues le soulèveraient 3 siècles plus tard et trouveraient, selon eux, toutes sortes de trésors. Sa vie ne fut pas toujours facile. Seuls 2 de ses enfants atteignent l'âge adulte et son mari Guillaume meurt en 1709. Cependant, ce veuvage amorce la partie la plus intéressante de sa vie. À cause des nombreuses absences de son mari qui était militaire, elle a dû apprendre à gérer la ferme. Désormais, et jusqu'à sa mort en 1736, c'est elle qui veille à la développer et à la faire prospérer pour assurer l'avenir de ses enfants et de ses petits-enfants. La maison restera dans la famille de Lorimier jusqu'aux premières années du régime britannique. Puis, elle passera en d'autres mains au fil de la transformation de la Chine. Le tracé du canal qui passe à 2 pas de la maison, l'arrivée des bateaux à vapeur, le train, les premières industries, les premières résidences estivales, la vieille maison de pierre s'adaptera et survivra. Qu'il s'agisse de l'aubergiste irlandais Hugh Heaney, des Écossais, les frères Grant, de l'apothicaire MacDonald, du colonel à la retraite Wilgris, de la famille Curry, chaque propriétaire va repenser la maison selon ses goûts et ses besoins. Mais ils vont l'aimer sans doute autant que l'aimait Marguerite Chorel.
Hugh Heaney, aubergiste. Hugh Heaney était aubergiste à Lachine. Ses 2 propriétés, l'auberge dite Heaney's Inn et la maison Lebert-Lemoine, subsistent toujours. La première est aujourd'hui une maison privée, tandis que l'autre est devenue le musée de Lachine. On connaît peu de choses des origines de Heaney, sinon qu'il est irlandais et protestant. Il est sans doute un de ces ex-soldats qui, au lendemain de la conquête, deviennent aubergistes. Ses tenanciers doivent montrer patte blanche, car les autorités ont établi une stricte réglementation afin d'assurer la respectabilité de ces lieux fréquentés surtout par des officiers, des marchands et des administrateurs britanniques, souvent des hommes seuls, célibataires ou provisoirement séparés de leur famille. En ces premières années du régime britannique, il y a peu de familles anglophones au Canada, donc peu de filles à marier. C'est pourquoi des célibataires comme Hugh Heaney contractent mariage avec des Canadiennes, souvent filles ou veuves de seigneurs ou de négociants. Son épouse Madeleine, fille du marchand Charles-René Lepailleur et de Madeleine Normand, descend du notaire royal Michel Lepailleur. Elle est aussi apparentée aux Delorimier, une importante famille de Lachine qui compte de nombreux officiers, des administrateurs, des négociants et plus tard, des patriotes. Lachine est alors le point d'embarquement des expéditions à destination de l'Outaouais et des Grands Lacs. Dès son arrivée à Lachine, Heaney achète une partie de la propriété de Louis Cuillerier située sur le bord du fleuve. Ayant pris possession des lieux le 1er juin 1765, Heaney y fait construire une grande maison de pierre à 2 étages et, le 20 juillet, il obtient un permis d'auberge. En peu de temps, il étend ses activités, ouvre un magasin et devient rapidement le seul capable de recevoir les voyageurs et les équipeurs des pays d'en haut. L'ascension sociale des Heaney, amorcée par le mariage de Hugh avec une demoiselle Lepailleur, va se poursuivre au cours des générations suivantes par de solides alliances avec d'importantes familles de notables, politiciens, juristes, négociants, surtout Canadiens-Français. Sir George Simpson, le petit empereur de la fourrure. Par le traité de Versailles, signé en 1783, la Grande-Bretagne est forcée de reconnaître l'indépendance des États-Unis. De nouvelles frontières sont établies et du coup, le marché des fourrures en provenance des Grands Lacs et de l'Illinois est fermé aux marchands anglo-écossais de Montréal. Ayant formé la Compagnie du Nord-Ouest, ses marchands se tournent vers le Grand Nord et n'hésitent pas à défier la toute-puissante Compagnie de la Baie-d'Hudson sur son propre territoire. La Chine devient la base de leurs opérations. C'est dans ce contexte qu'en 1803, Alexander Gordon fait construire un hangar de pierre pour y entreposer les fourrures et les marchandises de traite des Nor'westers. La concurrence entre les deux compagnies est féroce, surtout lorsque des colons britanniques, supportés par la Compagnie de la Baie-d'Hudson, s'installent à la Rivière Rouge. Pendant que les hommes s'affrontent, la chasse s'intensifie au point d'épuiser les ressources et les revenus commencent à baisser. Finalement, en 1821, les autorités britanniques forcent la fusion des compagnies rivales sous le seul nom de la Compagnie de la Baie-d'Hudson. Un nouveau gouverneur est nommé George Simpson. Il n'est pas très grand, mais énergique et surtout très autoritaire. On le surnomme le Petit Empereur. Ayant décidé de recentrer toutes les opérations de la compagnie dans l'île de Montréal, il fait de la Chine sa capitale. Sa mort en 1860 signale la fin du règne de la fourrure, commencé au temps des beaux-frères associés Charles Lemoine et Jacques Lebert. Nazaire Pichet, un curé diplomate. L'ouverture d'un canal, puis son élargissement et l'aménagement d'une voie ferrée reliant Montréal à la Chine, transforment la paroisse des Saints-Anges. Suite à ces transformations, le vieux village du Fort Rémy est délaissé. Vers 1850, il ne reste que quelques familles aux alentours de la vieille église construite en 1701. Plusieurs habitants souhaiteraient la construction d'une nouvelle église en bordure du canal, mais personne ne s'entend sur le choix d'un emplacement. Des querelles éclatent. Nommé curé en 1860, Nazaire Pichet réussit enfin à ramener la paix en proposant un terrain acceptable à tous. L'église des Saints-Anges est donc relocalisée face au petit canal à proximité du pensionnat des Sœurs de Sainte-Anne. Elle ouvre ses portes en 1865. L'ancienne église du Fort Rémy est démolie. Rapidement, tout le quartier compris entre les 12e et 18e avenues devient le cœur d'un nouveau village, bientôt ville, regroupant couvent, église, école, marché public, l'hôtel de ville, ainsi que les églises des deux principales communautés anglophones de la Chine, Saint Stephen's Anglican et Saint Andrew's Presbyterian.
L'arrivée des Sœurs de Sainte-Anne à la Chine, racontée par le curé Nazaire Pichet. En 1861, l'ancienne résidence de Sir George Simpson devient un pensionnat et des classes publiques sont ouvertes dans le hangar de pierre ayant servi d'entrepôt, aujourd'hui centre d'interprétation du commerce de la fourrure. Les acheteuses, les Sœurs de Sainte-Anne, amorcent ainsi le début d'une ère nouvelle, celle de l'éducation accessible à tous, et d'abord aux fillettes. Laissons le curé Nazaire Pichet nous raconter dans ses mots l'heureux hasard qui amena la communauté des Sœurs de Sainte-Anne à venir s'installer à la Chine. En février 1861, Monseigneur Bourget et M. Napoléon Maréchal se trouvaient chez moi. Je fis connaître à sa grandeur que la belle propriété du gouverneur Simpson, gouverneur de la Baie-d'Hudson, décédé à l'automne 1860, était en vente. Et je fis la remarque que si nous avions un couvent, comme ce serait un grand bienfait pour les jeunes filles. Monseigneur me parla des Sœurs de Sainte-Anne, disant qu'à Saint-Jacques-de-Lachigan, elles étaient bien éloignées de Montréal. Dès le jour suivant, je me rendis à la résidence du gouverneur. Monsieur Hopkins, qui était l'agent de Sir George Simpson et qui avait tous les pouvoirs, me fit entrer dans son office privé. Après lui avoir expliqué le but de ma visite, il m'avoua qu'il serait très heureux de vendre à une communauté de religieuses, parce que la maison serait tenue sur un pied respectable. Il me dit que la veille, il avait refusé 8 500 $, mais comme il savait que c'était pour un hôtel, il n'avait pas voulu vendre. « Mais pour les religieuses, je vous vendrai pour 8 000 $. » Ayant fait connaître à Monseigneur le résultat de mon entrevue avec le secrétaire du gouverneur Simpson, sa grandeur en conféra avec les autorités des Sœurs de Sainte-Anne. Il fut décidé, après quelques jours, de faire cet achat. La transaction fit l'objet d'un contrat notarié, lequel fut passé le mercredi 20 février 1861. Aussitôt que la maison fut vendue, M. Hopkins tint à faire la cérémonie des Anglais, c'est de livrer les clés de la maison. Voici comment les choses se sont passées. M. Hopkins, les sœurs et moi, le curé, nous sommes rendus près de la porte de devant. M. Hopkins mit la clé dans la serrure. Il ferma et ouvrit la porte, puis il ôta la clé qu'il livra à la supérieure qui fit la même cérémonie. C'est ainsi que les sœurs ont pris possession de la maison et elles ont commencé tout de suite à y demeurer.
John Grant, premier entrepreneur moderne de la Chine. John Grant serait né vers 1749 dans une Écosse perturbée par des crises politiques. Il la quitte dans la jeune vingtaine pour émigrer dans la province de New York. On le retrouve à la Chine peu avant 1780. Bien qu'il ait joué un rôle de premier plan dans notre histoire, beaucoup de détails de sa vie nous échappent. Ce sont peut-être ses funérailles qui nous en apprennent le plus sur ce personnage apprécié par ses concitoyens au point de former un convoi funèbre de la Chine jusqu'au cimetière de Montréal, à pied s'il vous plaît. Les gens se relayaient pour porter le cercueil sur leurs épaules. Grant s'était d'abord spécialisé dans le transport des marchandises, principalement des fourrures, entre le lac Ontario et la Chine. C'est l'expérience ainsi acquise qui fera de lui le convoyeur de centaines de réfugiés loyalistes vers l'Ontario au lendemain de la guerre d'indépendance américaine entre 1775 et 1783. Tâche colossale, puisque des familles entières, avec toutes leurs possessions, doivent être relocalisées là où il n'y a encore ni route, ni rien d'autre que quelques postes de traite. Ce sera le début de sa fortune, et par la suite, Grant dominera tout le transport fluvial entre Montréal et le lac Ontario. Il fut l'un des premiers à réclamer l'ouverture d'un canal contournant les rapides de la Chine. Il mourut en 1817, sans voir malheureusement l'achèvement de ce grand projet. Thomas Dawes, le brasseur. Les Britanniques qui s'installent au Canada après 1760 sont déçus de ne pas retrouver ici le goût familier de leur bière nationale. Alors, comme les bières importées coûtent cher, plusieurs immigrants anglais, tels les Molson, se lancent dans la fabrication de bières locales brassées au goût de leurs compatriotes. C'est en 1826 que l'un d'eux, un fermier doublé d'un maître brasseur du nom de Thomas Dawes, choisit de s'installer sur les bords du lac Saint-Louis. La Chine n'est encore qu'une paroisse rurale dont l'économie repose sur l'agriculture, le transport des fourrures et la navigation fluviale. Toutefois, l'ouverture récente du premier canal de la Chine en 1825 laisse présager un essor qui, selon Dawes, pourrait surpasser celui de Montréal. Les terres dont Dawes fait l'acquisition, entre la 26e et la 29e avenue, sont situés non loin de l'embouchure du canal. Sous la gouverne des fils d'Oz, la brasserie artisanale du patriarche Thomas devient une industrie véritablement moderne et la première du genre au Canada, tout en demeurant pendant quatre générations une entreprise strictement familiale. Partant du principe que ce qui est bon pour leur brasserie l'est aussi pour la Chine, les Dawes interviennent sur tous les fronts. Affaires municipales, transport fluvial et ferroviaire, téléphone, télégraphe, tramway, sans omettre les œuvres philanthropiques. C'est encore par l'intermédiaire de cette famille qu'en 1882, la Dominion Bridge Company Limited s'implante à la Chine. Preuve de la place qu'occupe la brasserie dans l'économie de la Chine, en 1853, la liaison ferroviaire avec le quai et la traverse de la Chine, d'abord localisée à la hauteur de la 21e avenue, sont réaménagées plus à l'ouest de manière à desservir la brasserie.